Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 6 juillet, Axel Kahn est parti. Le célèbre généticien âgé de 76 ans a succombé à son cancer. Lui, l'ancien président de la Ligue contre le cancer, brillant, engagé, combatif, humaniste. Il a chroniqué les plaisirs de la vie jusqu'à la fin. Une journée à haut potentiel émotionnel pour les candidats au bac. Les résultats tombent depuis ce matin avec le stress non pas de l'admission, mais de la mention. Dans RTL Midi aussi, les Républicains en route pour la primaire. Bureau politique ce soir pour préparer l'élection présidentielle. Covid, relance et retraite, ce sont les trois thèmes développés en ce moment à l'Élysée avec les partenaires sociaux. Ces derniers, pour la plupart, ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle réforme. Cannes, en mode strass, paillettes et tapis rouge, c'est le retour du festival décalé et encadré. Et les cinéphiles s'impatientent sur la croisette. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un petit déluge dans l'est du pays.
Et oui, avec de fortes pluies persistantes depuis ce matin, localement orageuses entre la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Le Rhône et l'Ain d'ailleurs sont en vigilance orange pluie inondation. Du sud-ouest au nord-est, les pluies sont plus éparses sous un ciel bien chargé. La région PACA et la Corse restent à l'écart avec du beau temps et puis autres régions à l'écart sous un ciel variable entre la façade Aquitaine, le centre et la Lorraine. Mais sur le nord-ouest, un temps souvent nuageux avec encore des averses, des orages et surtout beaucoup de vent, le tout sous des températures en nette baisse, comprises entre 18 à Brest et 29 à Marseille.
La question du jour sur RTL.fr, le festival de Cannes vous fait-il rêver? Alors vous êtes 93% à nous dire non, il y a 4% de oui. Bonjour Pascal Praud, c'est assez étonnant.
Oui,
c'est catégorique, on rappelle
mais en
que
même temps, c'est...
ça n'a pas valeur.
Non, mais c'est instructif.
Mais quand même, voilà.
Évidemment, Axel Kahn, nous allons en parler longuement, le médecin généticien qui avait tissé un rapport si particulier avec les Français. Vous pourrez nous parler de lui, mais également, pourquoi pas, nous parler de la mort. Est-ce un sujet tabou pour vous? La mort est un non-phénomène, disait Axel Kahn. Faut-il organiser une primaire à droite? Ce sera l'un de nos sujets. Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans? Un autre sujet, le bac, bien évidemment, la fin de l'année scolaire. Et puis, vous l'avez dit, ce festival de Cannes, peut-être trop élitiste pour faire rêver le plus grand nombre.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La mort n'existe pas, c'est la vie qui s'interrompt. C'est ce que disait le célèbre généticien Axel Kahn il y a quelques semaines, alors qu'il se savait en fin de vie. Il vient de succomber à l'âge de 76 ans à un cancer, non sans avoir tenu jusqu'au bout ce qu'il appelait la chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie. Il y racontait chaque jour ses émotions, la beauté du monde et l'amour de ses proches, l'amour de la vie. Il s'était mis en retrait de la présidence de la Ligue contre le cancer le 11 mai. C'était un scientifique de renom, un homme engagé, humaniste et philosophe. Il parlait de sa mort il y a quelques semaines à la télévision, Sophie Jousselin.
Oui, c'était le 23 juin dans la grande librairie sur France 5. Axel Kahn savait depuis l'aggravation subite de son cancer que la mort était proche, il ne la redoutait pas.
Je suis d'une totale impavidité par rapport à la mort. Elle m'indiffère totalement. D'ailleurs, en gros, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie qui s'interrompt. Mais la mort, en tant que telle, pour un agnostique comme moi, ce n'est pas plus que la fin de la vie.
Généticien de renom, Axel Kahn s'engagera tout au long de sa carrière sur les questions de bioéthique, sur le clonage ou encore sur les OGM. Plusieurs fois, il refusera le poste de ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. « Je ne voyais pas ce que je pouvais apporter », expliquait-il. Il préférera donc consacrer sa vie à la recherche médicale, président de plusieurs instituts et jusqu'au 17 mai dernier de la Ligue contre le cancer. C'est à ce titre qu'il prendra régulièrement la parole pendant la crise sanitaire, s'inquiétant des retards de prise en charge des malades, comme il l'expliquait sur RTL le 1er mars.
C'est sans doute pour les cancers colorectaux que le retard en dépistage et en diagnostic a été le plus important. Cela se paiera en vie perdue, en chance perdue.
Vous l'avez dit, Axel Kahn a raconté ses dernières semaines de vie dans sa chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie. Chaque texte était signé de ce surnom, Axel le Loup. Le 22 juin, c'est Axel le Loup, désemparé, qui a posé sa signature au bas du dernier billet.
Émotion dans la classe politique. Jean Castex écrit sur Twitter « Rendre hommage à l'homme, c'est d'abord épouser ses combats, saluer cette vie qui avait valeur d'exemple et faire nôtre ses engagements. » Norbert Ifra, le président de l'Institut National du Cancer, qui a mené de longs combats auprès de lui, était très ému ce matin.
J'ai du mal à en parler au passé. C'était un hématologue. Donc on se connaît très bien depuis très longtemps. Nous avons mené beaucoup de combats ensemble. C'est extrêmement violent pour moi. C'est très difficile à titre personnel. C'est très difficile pour la cancérologie française parce que c'est un esprit brillant, un chercheur de très haut niveau, quelqu'un qui est inspirant et qui avait gardé la capacité à s'indigner.
Axel Kahn croyait beaucoup à l'immunothérapie dans le traitement des cancers. Alors, c'est un hasard, évidemment, mais ce matin, pour la première fois, l'Institut national du cancer publie une étude sur la survie, alors que 3,8 millions de personnes vivent en ce moment dans notre pays avec cette maladie. Et le constat est optimiste, il y a une amélioration pour tous les cancers, Odile Pouget.
Oui, et ce qui est important, c'est que pour la première fois, on a un recul allant jusqu'à 20 ans après le diagnostic, une quarantaine de cancers passés au crible. Premier enseignement, si le pronostic était favorable 5 ans après, il reste favorable 20 ans plus tard. C'est le cas par exemple des cancers du testicule avec une survie supérieure à 90%, des mélanomes, le cancer de la peau, plus de 80% et du sein à 63%. Des chiffres positifs dus bien sûr au dépistage, à l'amélioration des techniques d'imagerie et puis des traitements innovants. Autre enseignement, pour la quasi-totalité des cancers, l'étude montre des différences de survie en fonction du sexe et ce sont les femmes qui s'en sortent le mieux. Exemple pour le cancer du poumon, hein, qui reste de sombres pronostics, avec un écart de 6 points entre les hommes et les femmes, écart qui s'explique notamment par une sensibilisation plus marquée des femmes à la prévention et une exposition plus forte des hommes aux facteurs de risque, le tabac principalement. Et puis, une survie qui varie évidemment en fonction de l'âge au diagnostic. Dans le cas, par exemple, des leucémies aiguës myéloïdes, 63% de survie à 5 ans, si l'on a 30 ans, contre 6% si l'on a plus de 80 ans, la présence d'autres pathologies chez ces personnes âgées pouvant limiter l'accès à certains traitements curatifs.
Et on l'entend, Odile, la prévention reste un outil majeur dans la lutte
Absolument.
Contre le cancer. Cédric Jubilard, dont la femme a disparu mystérieusement il y a 6 mois et demi, à quelques jours de Noël, souhaite être remise en liberté. Mise en examen, il est écroué depuis le 18 juin, mais nie avoir tué son épouse. Une audience s'est tenue ce matin devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse. Et ses avocats se sont montrés pugnaces, Patrick Tégéro.
Oui, une véritable opération de démolition de l'accusation. D'abord, maître Jean-Baptiste Allary, défenseur du premier jour, qui résume ainsi l'enquête. On n'a rien trouvé d'autre, donc c'est lui. Et il décrit une garde à vue qui n'avait qu'un seul but, faire traquer Cédric Jubilard. On fait débuter la garde à vue à 13h pour être sûr d'avoir 2 nuits d'interrogatoire. On y place aussi sa mère. On la lui montre menottée vers 2h du matin.
Pardon de vous interrompre, Patrick, mais vraiment la ligne est trop mauvaise. On va essayer de vous rappeler dans quelques minutes, puisque bien évidemment vous êtes en direct de la cour d'appel de Toulouse et la ligne ne passe pas. Merci. Une réunion d'écoute, c'est comme ça que l'Élysée présente le conclave de ce matin avec les partenaires sociaux. Ils sont reçus pour faire le point sur la relance, le contexte sanitaire et la réforme des retraites. Yves Verrier de Force Ouvrière préférerait que les retraites attendent.
Je viens expliquer ce qui, pour FO, est urgent, prioritaire en ce moment. En ce moment, c'est l'emploi, les salaires, les conditions de travail. On a beaucoup parlé des salariés à bas salaire, à temps partiel imposé. On s'est aperçu qu'un certain nombre d'entre eux, on les a qualifiés d'essentiels, on a beaucoup parlé des deuxièmes lignes. Ben moi, je réaffirme que, par exemple, ce sujet-là doit être au cœur de la relance et sûrement pas les retraites.
Yves Verrier au micro RTL d'Anaïs Bouissou. Un coup de pouce pour les fonctionnaires, ceux de la catégorie C la plus basse vont bénéficier d'une hausse de pouvoir d'achat comprise entre 40 et 100 euros net par mois pour compenser l'absence de hausse du point d'indice. Annonce ce matin d'Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, ça concerne 1 200 000 fonctionnaires. Les Républicains lancent aujourd'hui leur machine à gagner pour la présidentielle. Le bureau politique se réunit cet après-midi pour évoquer les conditions d'une primaire. Mais il ne faudrait pas, Marie Mollet, que ça tourne à la machine à perdre.
Eh oui, car à droite, le favori des sondages s'appelle Xavier Bertrand et lui refuse catégoriquement de participer à une primaire. C'est un peu comme si on organisait une Coupe du Monde de foot sans la France ou l'Allemagne, souffle un conseiller. Mais c'est justement le but de cette tribune, tordre le bras de Xavier Bertrand et le convaincre de se soumettre à cette primaire. Ah non, ce processus de rassemblement, comme l'appelle pudiquement le parti, processus dont le principe devrait être acté ce soir. Pour le reste, rien n'est encore tranché. Le casting d'abord, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez se laissent l'été pour méditer. Le calendrier ensuite, qui sera discuté ce soir. Le patron des LR, Christian Jacob, n'en finit plus de repousser, mais bon nombre d'élus veulent accélérer pour ne pas regarder les autres faire campagne les bras croisés et surtout lâche l'un de ses critiques pour ne pas laisser Xavier Bertrand galoper tout seul dans les prés.
Marie Mollet. Une pause et dans un instant, le bac avec ou sans mention, c'est la question en ce jour de résultat.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Admis, rattrapés ou recalés, les 715 000 candidats au bac ont découvert leurs résultats ce matin, dénouement d'une session encore une fois chamboulée par la crise sanitaire. L'an dernier, le taux de réussite culminait à 95,7% des candidats. Et désormais, la question qui s'impose n'est plus « est-ce que tu l'as ?» mais t'as une mention, direction Marseille, au lycée Nelson Mandela, Samia Belbachir.
Comme la majorité de ses camarades, Amir n'était pas trop stressé en arrivant ce matin.
J'ai eu mon bac, mention assez bien. Je ni content ni déçu. J'ai pas trop travaillé cette année, mais bon, j'ai eu mon bac, c'est déjà bien.
Aucun élève en échec ici, au lycée Nelson Mandela, où le taux de réussite est de 96%, avec plus de 60% de mention. Pas de gros suspense donc, mais un soulagement tout de même pour Ambre et Chahinez.
J'ai mon bac, j'ai eu mention assez bien et voilà, je suis contente.
Ouais, t'as un grand sourire.
Ouais, je suis trop contente, ça y est, cette période elle est finie et voilà, on est en vacances maintenant.
T'as les larmes aux yeux, qu'est-ce qui se passe?
Parce que j'ai eu mention très bien, moi je trouve même pas les mots.
C'était une année très dure et où on pensait pas avoir la mention, mais malgré ça, je suis contente de l'avoir eue.
Ça y est, les vacances peuvent enfin commencer.
Voilà, et c'est les vacances pour tous les élèves ce soir. Un opéra rock flamboyant pour marquer le retour du Festival de Cannes. Annette, le film de Léos Carax, sera présenté en ouverture du festival ce soir. Les stars seront autorisées à tomber le masque et l'incontournable tapis rouge vient d'être déroulé sur les marches du Palais des Festivals. Michael Lefebvre, les fans s'impatientent.
Effectivement, Christelle, sous les acclamations des badauds, les 24 marches du Palais des Festivals ont été recouvertes il y a un peu plus d'une heure du fameux tapis rouge, donnant le coup d'envoi officieux de ce 74e Festival de Cannes.
Ça redémarre, quoi, voilà, ça redémarre après une année blanche.
Conséquence attendue de ce festival en plein mois de juillet, les touristes se mêlent aux cinéphiles. Ce groupe de jeunes filles, originaires de Tournai en Belgique, a déjà des étoiles plein les yeux.
Bah, on est venu en vacances à Nice, on est venu exprès à Cannes aujourd'hui pour essayer de voir des stars le premier jour en tout cas.
Des stars, ces étudiantes en communication venues de Toulouse espèrent en croiser aussi.
J'aimerais beaucoup voir Matt Damon parce que depuis que j'ai su qu'il était là, du coup c'est un peu un rêve là que j'espère concrétiser.
Et moi ce serait Marina Foïs.
Carnet d'autographes en main et déjà juché sur son escabeau, Nicole, une habituée, se remémore son grand moment d'il y a 2 ans.
DiCaprio m'a fait un gribouillou mais je l'ai quand même touché sur l'épaule. J'ai fait comme ça, ses gardes du corps, je vous dis pas les yeux qu'il me faisait. Je suis assez tactile, voyez-vous. Il faut que je les touche pour voir si c'est du vrai.
Covid oblige, pas sûr que Nicole puisse reproduire cette année son exploit, mais ce soir, l'atmosphère autour des marches promet tout de même d'être chaude, populaire et festive.
Voilà pour l'ambiance. Le Festival de Cannes vous fait-il rêver? C'est la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs au 32-10, Pascal Pro.
Bah quand on aime le cinéma, on aime tous les cinémas. Et oui, ça fait rêver parce que c'est des artistes qui propose quelque chose parfois de nouveau, de surprenant, de dérangeant. Donc on est vraiment impatient de voir leur copie. Et on peut vraiment aimer Gérard Houry et Tarkovsky. On peut aimer un cinéma très populaire et un cinéma très très intello et ou en tout cas très différent. Et lorsque vous voyez le palmarès de Cannes depuis tant d'années, mais c'est des immenses films. C'est Apocalypse Now, c'est Dipan ces dernières années, c'est Parasite. Donc oui, c'est un cinéma qui est parfois très intéressant à suivre parce qu'il traduit aussi une époque. Et c'est pour ça que vraiment ça peut aussi faire rêver parce que les artistes ont une capacité parfois à synthétiser une époque à travers l'art, tout simplement, et l'art cinématographique en l'occurrence.
Et ben on va rejoindre Stéphane Boutsock, notre spécialiste cinéma en direct de la Croisette. Stéphane, vous partagez ce que dit Pascal ?
Oui, absolument. Et je vais rebondir sur ce que disait Pascal. On va remonter pas trop loin. On va remonter à 2019. Palme d'or du Festival de Cannes. Parasite, film d'un cinéaste coréen dont autant se dire que assez peu de ceux qui nous écoutent avaient entendu parler avant. Oui. Bong Joon-ho, qui sera là d'ailleurs ce soir. Parasite, au final, c'est 1 900 000 entrées en France. Il est passé hier soir à la télé, 2 200 000 spectateurs. Donc le curseur du film élitiste, il faut savoir où on le met. Et en effet, sans Cannes, rappelons que Coppola, Spielberg, Audiard, Fellini, Visconti, Demi, Lelouch sont des gens qui sont nés à Cannes aussi. Oui. Et on peut pas dire que depuis 60 ans, parfois c'est le cas de Claude Lelouch, ces gens-là fassent du cinéma élitiste. C'est des gens qui sont vus par des millions de spectateurs.
Pourquoi il y a ce procès récurrent en élitisme? Parce qu'il n'y a pas assez de place aux comédies, par exemple?
Alors, il y en a. Je vous rappelle qu'il y a, par exemple, cette année, le film de clôture, c'est OSS 117, quand même. Donc, c'est une vraie preuve d'ouverture d'esprit.
Je crois que le dernier, c'était MASH, qui avait été en 70, la dernière comédie pure qui avait été primée.
Comédie pure, oui, bien sûr.
MASH en 70.
C'est un festival du film, donc c'est un peu comme quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous prenez les choses que vous connaissez, vous achetez des pâtes, vous achetez du sucre, vous achetez du café, et puis de temps en temps vous passez devant le rayon exotique et vous dites tiens, je vais peut-être goûter la sauce soja, je connais pas, et puis ça vous plaît, donc du coup ça fait partie de votre quotidien, donc ça devient moins élitiste. Mais c'est bien aussi qu'à Cannes on découvre des films, comme disait Pascal encore une fois, qui nous dérangent, qu'on rejette parfois, qu'on n'aime pas, et puis des fois on a des énormes coups de cœur, et ces gens-là au fur à mesure des années, deviennent des cinéastes ou des acteurs que le public a plaisir à retrouver.
Merci Stéphane, et nous on aura du plaisir à vous retrouver tous les jours sur La Croisette. Merci.
Ça me fait plaisir, merci à vous.
Football, Italie-Espagne, première affiche des demi-finales de l'Euro à Wembley devant 60 000 spectateurs exclusivement anglais à cause du Covid. C'est la renaissance italienne alors que l'équipe n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Une pause, dans un instant part sur la route du Tour, 10e étape entre Albertville et Valence. RTL chez vous.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Et on vous retrouve, Christophe, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Christelle. RTL chez vous, Albertville, direction Valence cet après-midi. Qui peut battre Pogacar d'ici Paris? Rencontre avec l'immense championne Marie-Josée Pérec, l'histoire du Tour, le coup de cœur de Laurent Jalabert et des nouvelles de Thibaut Pinot. RTL chez vous, c'est parti.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
Dites 33. Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour, je ne suis pas malade Christophe, pourquoi 33?
Parce qu'il y a un certain petit bonhomme vert qui a 32 victoires au compteur et qui aimerait bien en ajouter une 33e cet après-midi à Valence. Marc Cavendish.
Oui, bien sûr Cavendish, le petit homme en vert, la petite boule qui va vite et qui a une opportunité aujourd'hui de se rapprocher encore un peu plus de ce record mythique d'Eddy Merckx, 34 victoires d'étape dans le Tour de France. Voilà, Cavendish à 32 n'est qu'à deux longueurs, il lui reste pas mal d'opportunités et aujourd'hui clairement ça n'est une, donc voilà, je pense qu'avec son équipe, bien qu'ils disent volontiers qu'il n'a pas ça dans la tête, je pense qu'ils y croient et ils vont tout faire pour essayer de lui offrir une nouvelle possibilité de sprinter à Valence.
Ouais, ça fera un triplé quand même dans ce Tour de France 2021 pour Marc Cavendish, on n'oublie pas. Albertville, Valence, on le rappelle, on parle d'Albertville tout à l'heure. Bonne journée Laurent Jalabert, on se retrouve ce soir pour votre club Jalabert, 18h30, 19h, ça vous va?
À tout à l'heure, ouais, avec plaisir.
Christophe Paco,
RTL, chez vous.
Qui peut encore battre Tadej Pogacar d'ici les Champs-Élysées? C'est la question du jour. Mourad Jabari est allé à votre rencontre sur la ligne de départ.
Non, je pense pas, c'est le meilleur. Compte tenu que Roglic est hors course, il gagnera le tour, sauf incident mécanique ou une chute ou un truc comme ça. Quoi.
Ben O'Connor, il monte celui-là, il me fait grosse impression.
Et vous pensez qu'il peut renverser Pogacar?
Non.
Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir lutter contre ce jeune prodige de 22 ans. Mais une défaillance, ça peut arriver, c'est arrivé au grand. Tant qu'il n'y a pas passé la ligne des Champs-Élysées, comme on dit, on a vu Fignon, il faut attendre quoi.
Christophe Paco,
RTL chez vous.
RTL chez vous, avec la légende, avec Marie-Josée Pérec. Bah, c'est vrai Marie-Jo.
Bon, je ne sais pas si tu peux dire que je suis une légende, je ne suis pas morte encore en général. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Hein?
Ouais, non, moi je te regarde comme une légende parce qu'il y a tellement d'images, c'est vrai, Marie-Jo. On est content de vous retrouver sur le Tour de France avec une très belle opération, on en parle tout de suite, hein, pour ses enfants.
C'est une belle opération qui est montée par Century 21. C'est un enfant, un vélo. Sur le Tour, il y a des vélos qui sont distribués tout simplement aux enfants. Moi, je sais ce que ça veut dire. Enfin, moi, quand j'étais petite, je n'ai jamais eu de vélo. Et je pense que les vélos que j'ai vus ce matin, lorsqu'on en a un comme ça, c'est la liberté. J'ai vu des sourires.
C'est ça, des yeux qui pétillent.
Oui, les gamins, ils sont heureux. Et puis d'un coup, on s'est dit, on fait vraiment quelque chose qui compte. Donc, c'est magnifique.
Vous avez déjà fait du vélo comme pour vous entraîner un petit peu, pour maintenir en forme?
Oui, après, j'en ai fait un petit peu. Aujourd'hui, je fais du vélo, mais c'est vrai que étant gamine, c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Mais par contre, mes parents, ils m'avaient offert la rivière. Juste à côté de chez moi, moi, j'avais une rivière et c'était un très beau terrain de jeu. Et j'ai transformé ça autrement. Voilà.
Autrement. Merci mille fois d'être venue jusqu'à nous, Marie-Josée Perec.
Plaisir.
Et bonne journée.
Merci à vous aussi.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
Christophe Paco.
RTL chez vous, avec le spécialiste vélo du Parisien aujourd'hui en France, Christophe Bérard, bonjour.
Bonjour Christophe.
Étape tranquille aujourd'hui, logiquement pour les sprinteurs. On a voulu s'intéresser à votre article du jour concernant Thibaut Pinot qui aurait pu le gagner ce tour. Hein.
Exactement, souvenez-vous du tour 2019 où justement dans l'étape de Tignes, touché par une violente douleur au genou, il a dû abandonner. Et puis effectivement le destin de Thibaut Pinot a été compliqué puisque le tour suivant qui était tracé pour lui, il y a eu une chute énorme sur la première étape, sur la promenade des Anglais. Une centaine de coureurs qui tombent, lui il est percuté en plus par la roue d'un coureur. Il a depuis des douleurs au dos très compliquées, il n'est toujours pas revenu à son meilleur niveau.
C'est ça, il n'a même pas de date, on ne sait pas quand il va pouvoir reprendre officiellement la compétition de n'importe quelle petite course.
Exactement, en fait, parce qu'il va reprendre un stage avec l'équipe Groupama FDJ à Tignes justement mi-juillet. Il n'a qu'une envie, c'est de remettre un dossard, m'a-t-il dit, mais il m'a dit pour l'instant, en gros, il a une condition physique assez précaire. Il a roulé 60 heures en deux mois, ce qui est rien du tout, mais il a envie. Et en même temps, Thibaut Pinot dans l'interview, c'est qu'à la fois il a une forme de colère en lui par rapport à cette chute d'il y a un an où il en va encore aux organisateurs de ne pas avoir neutralisé la course. Et puis à côté de ça, il nous raconte les hauts et les bas d'un coureur, c'est-à-dire que il s'est mis un jour à pleurer sur le périphérique, il était pris dans les bouchons, il allait faire des tests, il se demandait à quoi bon, il a voulu arrêter sa carrière, il s'est repris, il a rebondi, il a replongé, il nous raconte ça, et aujourd'hui, il nous narre son envie de revenir, parce que Thibaut Pinot, de lire sur les réseaux sociaux, non mais les douleurs c'est dans la tête, il ne montera jamais très haut dans le verbe, mais il n'en pense pas moins. Je vous incite à lire cette interview chez nous.
Article à lire dans le Parisien, les mots et les mots de Thibaut Pinot aujourd'hui, bien sûr. Merci Christophe Bérard.
Je vous en prie, à demain.
Christophe Paco.
RTL, chez vous.
Fenêtre sur Tour, avec Christian Laborde, qui ouvre ce midi les grands volets de l'histoire vers les routes du Sud, vers Valence.
Le peloton quitte aujourd'hui Albertville pour Valence, ville natale d'Anne-Sophie Pic, chef étoilé, de Sébastien Chabal et de Charlie Mottet, héros du Tour qui compte parmi ses admirateurs le chanteur Renaud. Aujourd'hui, c'est plat. Ce sera un sprint, sauf si un coureur se prend pour Charlie Mottet, champion qui ne manquait ni de classe ni d'audace. Coureur, faites comme Mottet en 1990 lors de l'étape Millau-Revel. Maillot RMO sur le dos, Mottet sort du peloton et s'en va en compagnie de Djamouliddine Abdoujaparov chercher le sieur Bruno Cornillet échappé. Cornillet est repris. Ils sont 19 à rouler avec Mottet. Et que fait Mottet à 38 bornes de l'arrivée? Il sort du groupe, s'en va seul et c'est époustouflant. Charlie Mottet bouffe du vent. Charlie Mottet relance vaillamment. Charlie roule plus vite, encouragé, non par Renaud, mais par Johnny. Roule plus vite, Charlie, et tu gagneras. Ne te retourne pas. Roule plus vite, Charlie, et tu gagneras. L'étape sera pour toi. Elle fut pour lui. Coureur, soyez Charlie.
Tour de France 2021.
RTL chez vous.
La course, toutes les demi-heures, avec Christian Olivier, Nicolas Georgerot et Morad Jabari. Plus que jamais, en direction du Grand Sud. Vous êtes bien sur RTL.
On dirait le Sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
RTL Midi.
La météo, Peggy Broche, et en plus, les températures dégringolent partout, franchement.
Oui, c'est vrai. 18 à Mulhouse, comme à Lyon, où hier il faisait 30 degrés. 19 à Rennes, 20 à Lille, 10 degrés de moins à Biarritz par rapport à hier. Et il n'en fait plus que 21 cet après-midi, je vous l'accorde, c'est peu. 22 à Paris, Tours et Bordeaux. mais il fait toujours bien chaud près de la Méditerranée, 27 à Nice et 31 à Perpignan, comme toujours, me direz-vous. Côté ciel, alors les pluies persistent à l'est cet après-midi avec un coup de tonnerre possible, notamment entre la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Attention au fort cumul de pluie. D'ailleurs, le Rhône et l'Ain sont en vigilance orange pluie inondation. Entre le sud-ouest et l'Alsace, là, c'est un ciel chargé avec des pluies plus éparses. Seule la région PACA et la Corse sont épargnées avec un beau soleil. C'est pas mal non plus. On a une zone sèche entre la façade Aquitaine, le centre en remontant vers la Lorraine. Et puis, entre nuages et éclaircies. Alors, c'est pas du grand bleu, hein, mais voilà. Et puis, sur le nord-ouest, c'est reparti entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Beaucoup de vent encore. Des rafales jusqu'à 80 km/h sur les côtes. 60 à l'intérieur des terres. Un ciel souvent nuageux. Encore quelques averses et des averses localement orageuses. C'est vrai qu'on pourrait avoir mieux.
Bon, et demain, encore un temps bien perturbé.
Oui, alors on va quand même profiter d'une relative accalmie.
Voilà, trouver quelque chose de positif, ça va nous faire du
voilà,
bien.
Le matin, avec encore quelques averses, c'est vrai, sur la façade atlantique et le sud-ouest. Et quelques averses localement orageuses vont se réactiver dans l'après-midi. Entre le sud-ouest, le centre et le nord, entre le Jura, les Alpes et le massif central et sur la Bretagne, ce qui laisse peu de place, vous l'avez compris, au soleil, mais il résistera toujours près de la Méditerranée. Un ciel variable et sec sur la façade aquitaine en remontant vers la Normandie et le nord-est, où les températures d'ailleurs sur le nord-est vont enfin remonter. Mais elles seront stationnaires ailleurs, comprises entre 18 à Cherbourg et 30 à Marseille, 20 à Bordeaux, 23 à Paris et 25 à Strasbourg.
Merci quand même.
Je vous en prie.
RTL, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Axel Kahn est mort, vous le savez, et la façon dont il a raconté sa mort, car il s'agit de cela dans un blog, et je pense exceptionnel, puisque son dernier blog date du 22 juin, donc il y a simplement quelques jours. Vous pourrez lui rendre hommage, et c'est déjà le cas, au 3210. Bonjour Romain, vous êtes médecin vous-même ?
Oui, bonjour.
Et vous voudrez sans doute lui rendre hommage dans quelques minutes.
Oui, bon, l'hommage aux chercheurs, aux scientifiques, à l'homme contre le cancer, plus qu'à l'homme politique par contre.
On va en parler. Christelle, le rappel des titres.
Et oui, la mort n'existe pas, c'est la vie qui s'interrompt. C'est ce qu'expliquait justement Axel Kahn il y a quelques semaines. Il est donc mort d'un cancer ce matin à l'âge de 76 ans. Il avait dû quitter au mois de mai la présidence de la Ligue contre le cancer. Jean Castex écrit « Rendre hommage à l'homme, c'est d'abord épouser ses combats, saluer cette vie qui avait valeur d'exemple et faire nôtre ses engagements ». Cédric Jubilard va-t-il retrouver la liberté ? Le mari de Delphine, disparu depuis 6 mois et demi dans le Tarn, fait l'objet d'une audience ce matin devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse où l'on retrouve Patrick Tégéraud. Patrick ?
Oui, et les avocats de la défense ont mené une véritable opération de démolition de l'accusation. D'abord, maître Jean-Baptiste Talary, le défenseur du premier jour, qui résume ainsi l'enquête. On n'a rien trouvé d'autre, donc c'est lui. Et il décrit une garde à vue qui n'avait qu'un seul objectif, faire craquer Cédric Jubilard. Puis c'est le tour de maître Emmanuel Franck qui contestait point par point les 9 indices qui bâtissent l'accusation. Comment peut-on aller si loin avec si peu ? Les cris entendus par des voisines, trop incertain, trop lointain. Une dispute le soir de la disparition. Le petit garçon du couple n'en parle pas lors de sa première audition au lendemain des faits. Et maître Martin donne le coup de grâce. Il n'y a pas de scène de crime, pas de traces suspectes, même pas de traces d'essuyage dans la maison ou dans la voiture qui sont toutes deux aussi sales. Il n'y a que des soupçons égrenés, mais pas d'éléments flagrants. Les conseils de la sœur et des frères de Delphine s'en remettent aux réquisitions de l'avocat général qui a bien sûr de réclamer le maintien en détention de Cédric Jubilard. Il vient aussi de défendre l'enquête des gendarmes et de rappeler la conduite étrange de Cédric et ses 9 joints de cannabis quotidien. Jubilard, dans son box, ne bronche pas. Il reste impassible et très attentif. L'audience vient de se terminer. La chambre de l'instruction rendra son arrêté le jeudi prochain.
Patrick Tégéraud, direct du Palais de Justice de Toulouse. Une réunion d'écoute à l'Élysée en ce moment avant de possibles annonces du chef de l'État. Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux pour faire le point sur la relance, le contexte sanitaire et un éventuel retour de la réforme des retraites. Une journée particulière pour 715 000 candidats au bac. Les résultats tombent académie par académie. L'an dernier, le chiffre de réussite atteignait 95%.